Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi cette année de m'attaquer à une question énorme et redoutable, à savoir la question « qu'est-ce qu'un système philosophique ?» qui d'ailleurs pour beaucoup de philosophes n'est finalement pas très différente de la question « qu'est-ce que la philosophie elle-même ?» Alors j'ai essayé de répartir l'enseignement, le travail de cette année en 13 leçons, selon un programme que j'avais tenté de suivre approximativement avec la marge d'incertitude habituelle. Alors aujourd'hui, donc, j'aimerais traiter de la question de la pluralité des systèmes philosophiques que beaucoup de philosophes considèrent comme essentiel et intrinsèque, c'est-à-dire inéliminable. Et la question de la pluralité des systèmes philosophiques soulève évidemment immédiatement un problème tout à fait fondamental qui est celui de l'applicabilité de la notion de vérité à la philosophie. Est-ce qu'on peut dire en un sens quelconque du mot vérité, que, en un sens quelconque du mot vrai, que les philosophies sont susceptibles d'être vraies? Alors, on peut constater que c'est déjà une question, je ne sais pas s'il faut l'appeler philosophique ou métaphilosophique, une question sur laquelle les philosophes sont totalement divisés. Il y a des philosophes qui continuent à penser, même aujourd'hui, que la philosophie est un secteur particulier de la recherche de la vérité, même si ils confessent en général honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de vérité, et même peut-être pas du tout de vérité, sur laquelle jusqu'à présent les philosophes aient réussi à se mettre d'accord. Mais, encore une fois, ça ne signifie pas nécessairement que essayer d'appliquer le concept de vérité à la philosophie est une chose dénuée de sens. Donc, nous avons ce problème-là. Deuxième question que j'aimerais traiter, la philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être? C'est-à-dire, est-ce qu'il est indispensable, est-ce qu'il est constitutif, en quelque sorte, de l'entreprise philosophique que la philosophie se présente sous la forme du système? Et là aussi, comme vous le savez sûrement, les philosophes sont complètement divisés. Il y a des philosophes qui continuent à penser que la forme par excellence, et peut-être même la forme unique de la philosophie, est le système. D'autres, au contraire, qui pensent que la philosophie, surtout aujourd'hui, devrait être antisystématique et s'abstenir soigneusement de prendre jamais la forme du système. Troisième question, misère de l'éclectisme. Est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux? C'est une question qui a évidemment un rapport avec la première. Il y a eu des philosophes qui ont rêvé plus ou moins de ramener la pluralité qui semble, aux yeux de certains, essentielle, la pluralité des systèmes philosophiques, de la ramener à l'unité en payant un prix dont on verra qu'il est tellement exorbitant qu'il se révèle presque immédiatement inacceptable. Quatrième question, la philosophie, les sciences et le sens commun. Cinquième question, les problèmes philosophiques peuvent-ils être insolubles? C'est-à-dire, est-il acceptable que, même si c'est ce que pensent au fond implicitement ou explicitement beaucoup de philosophes, que les problèmes philosophiques continuent à apparaître comme insolubles. Ce qui amène à se poser la question, sont-ils véritablement faits pour être résolus? Ou bien est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les philosophes se sont habitués à cette idée qu'il était beaucoup plus important de les poser que de les résoudre? Même que, peut-être que la seule chose véritablement importante était d'être conscient de leur existence, de les discuter, mais pas de les résoudre. Sixième problème dont j'aimerais traiter, l'histoire de la philosophie et la question de la vérité des philosophies. Sous cette rubrique, j'aimerais en particulier vous parler du genre de conception qui a été défendu par Martial Guéroux, donc un de nos plus éminents historiens de la philosophie, dans un livre intitulé « Philosophie de l'histoire de la philosophie ». Autrement dit, aux yeux de l'historien de la philosophie, qu'en est-il exactement de la question que j'ai choisie, dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire le problème, la question de savoir si, oui ou non, il est possible d'appliquer le concept de vérité à la philosophie. Septièmement, apparence et réalité, le problème de leur distinction comme problème fondamental de la philosophie. On verra que chez Jules Villemin, qui est un des auteurs dont j'aurai à vous parler longuement cette année, ce problème de la distinction entre l'apparence et la réalité est présenté comme étant le problème philosophique par excellence, et c'est aussi ce problème qui est à l'origine de la division qui se produit presque immédiatement entre les philosophies, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de réponses possibles à cette question de la distinction de l'apparence et de la réalité. Les réponses sont en fait donc irréductiblement plurielles et inconciliables entre elles. Huitièmement, c'est la question comment se fait le choix entre les systèmes, parce qu'une fois qu'on a admis qu'il y a une pluralité qui est probablement impossible à dépasser entre les systèmes philosophiques, on est, semble-t-il, immédiatement tenu de répondre à la question mais comment choisit-on, puisqu'il faut choisir. Et là, on va voir que c'est une question extraordinairement délicate sur laquelle beaucoup de philosophes s'abstiennent avec pudeur de donner ne serait-ce qu'un commencement de réponse. Tout le monde admet que les philosophes font des choix différents. Peu de philosophes ont essayé de répondre clairement à la question de savoir dans quelle mesure ce choix peut être rationnel ou est condamné à rester plus ou moins irrationnel. On verra que Charles Renouvier, par exemple, qui est l'auteur d'un essai de classification systématique des doctrines philosophiques, paru, si je me souviens bien, en 1885-86, répond qu'au fond, le choix est, entre les systèmes philosophiques n'est pas très différent du choix en faveur d'une foi religieuse quelconque. Alors, évidemment, ce n'est pas particulièrement rassurant et satisfaisant d'être obligé de se dire que peut-être les systèmes philosophiques sont des constructions extraordinairement rationnelles et quelquefois même presque pathologiquement rationnelles. Donc, ils obéissent à une exigence de rationalité qui peut être radicale et même un peu tyrannique, mais que finalement, le choix qui est fait entre les systèmes philosophiques eux-mêmes est peut-être lui largement, voire même complètement irrationnel. Donc nous sommes confrontés à la question à laquelle j'ai donné le numéro 9, le problème de la comparaison entre les systèmes peut-elle réellement avoir lieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit véritablement à comparer entre les systèmes philosophiques et à le faire de façon rationnelle? Ou bien est-ce que le choix, comme dit aussi Renouvier, j'aurai à vous en reparler assez longuement, est-ce que le choix ne dépend pas, en fin de compte, essentiellement de facteurs personnels? Alors, le fait que le choix puisse dépendre essentiellement de facteurs personnels constituerait évidemment, s'il est avéré, une humiliation pour pour la philosophie elle-même et pour les prétentions de qu'elle entretient, en ce qui concerne en tout cas son rapport essentiel avec la rationalité. Alors, dixième question, la science peut-elle au moins dans certains cas nous contraindre à un choix déterminé entre les options philosophiques qui se proposent? Certains philosophes ont pensé que, au moins dans certains cas, par exemple, peut-être dans le cas de la philosophie des sciences, il est possible que finalement il y ait des possibilités de choix rationnels qui sont déterminées par l'état de la science elle-même. On verra que Jules Villemain, par exemple, répond clairement et catégoriquement non à cette question, c'est-à-dire même l'état de la science, à un moment donné, ne permet pas d'arbitrer, n'est pas en mesure d'arbitrer entre les systèmes philosophiques, y compris les systèmes de philosophie des sciences. Onzième question, je l'ai intitulée « Méthode axiomatique et philosophie ». Et là, il y a deux problèmes différents que nous aurons à considérer. D'abord, la question générale des relations entre la méthode axiomatique et la philosophie. Et puis, la question de l'usage qui peut ou ne peut pas être fait de la méthode axiomatique proprement dite dans la philosophie elle-même. C'est-à-dire, si vous voulez, est-ce qu'il est possible de concevoir, en particulier de concevoir encore aujourd'hui, quelque chose comme une philosophie more axiomatico scripta et demonstrata, c'est-à-dire une philosophie qui serait présentée dans une forme explicitement axiomatique et démontrer more mathématico, enfin, géométrico, comme disait Spinoza. On verra que c'est un problème qui est assez délicat et en même temps très important. Villemain, par exemple, considère que la philosophie et la méthode axiomatique ont pris naissance exactement au même moment en Grèce, hein, pour des raisons très précises. Et du coup, évidemment, il est amené à considérer qu'il y a probablement un rapport essentiel entre la méthode axiomatique et la philosophie, mais quand on s'interroge de façon précise et concrète sur l'usage qui peut être fait de la méthode axiomatique au sens strict, en particulier de l'axiomatique formelle en philosophie, on s'aperçoit que les possibilités sont tout de même assez limitées et que les espoirs le sont également. Enfin, je ne vais pas anticiper, j'aurai à vous reparler assez longuement de cette question. Alors, dans les deux dernières séances de cette année, je voudrais commencer à entrer un peu plus à fond dans l'exposé de la théorie de la classification des systèmes philosophiques qui a été proposée par Jules Villemain en relation avec la classification des formes de prédication. Bon, je ne vais pas entrer davantage dans les détails pour le moment puisque nous aurons à nous attarder longuement sur le travail que Villemain a effectué sur ce type de questions, qui est un travail extrêmement important, je crois malheureusement, qui malheureusement n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et alors dans la dernière séance, donc porte le numéro 13, j'ai intitulé un exemple paradigmatique, l'argument de Diodore et les systèmes de la nécessité et de la contingence. Alors là, j'aimerais vous parler de quelque chose dont j'aurai à vous reparler encore l'année prochaine, donc qui est la tentative à laquelle Wiedemann s'est livré d'utiliser un argument fameux qu'on appelle l'argument de Diodore, on appelle aussi l'argument dominateur ou le maître argument, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Wiedemann a estimé que cet argument peut être utilisé comme principe de division et de classification pour la philosophie morale, c'est-à-dire c'est, si vous voulez, le genre de solution qui a été apporté à cette aporie. Le genre de solution qui lui a été apporté constitue un principe de répartition des différentes solutions qui peuvent être adoptées quand on a à choisir entre les différents systèmes de la modalité, entre les différents systèmes, pardon, de la nécessité et de la contingence, de la liberté et par voie de conséquence les différents systèmes de philosophie morale. Donc il attribue à cet argument de Diodore une importance considérable, puisque d'une certaine façon, c'est le principe, il a engendré une sorte de principe de répartition, hein, de division et de répartition entre les différents systèmes moraux. Donc j'espère avoir le temps de commencer à vous parler de ce problème auquel Wiedemann a consacré un livre entier, hein, qui s'appelle « Nécessité ou contingence », l'argument de Diodore et les systèmes philosophiques, qui me semble être son livre le plus important. Donc, de ça, j'espère pouvoir commencer à vous parler à la fin de l'année. Alors, je vais aujourd'hui donc commencer à vous parler un peu de ce problème, du problème de la pluralité des systèmes philosophiques en relation avec la question de savoir si il y a ou non, si on peut ou non raisonnablement supposer que la notion de vérité doit conserver une place dans la philosophie elle-même. Comme certains d'entre vous s'en sont probablement rendus compte, et comme je l'ai déjà suggéré, le cours que je vais donner cette année constituera pour moi, entre autres choses, une occasion de rendre hommage à un de mes maîtres les plus importants, à savoir Jules Wiedemann, qui est l'auteur, parmi de nombreux autres ouvrages, d'un livre paru en 1986 et intitulé « What are philosophical systems ?»« Que sont les systèmes philosophiques ?» Et là, je me permets d'attirer dès maintenant votre attention sur l'importance du pluriel. La question, c'est que sont les systèmes philosophiques, et une des choses sur lesquelles Wiedemann revient constamment, c'est ce que j'ai appelé donc la pluralité intrinsèque et, semble-t-il, constitutive des systèmes philosophiques. Alors, ce livre n'existe pour le moment, malheureusement, qu'en anglais, mais il y a quelque espoir que nous réussissions à en faire paraître un jour, et même peut-être prochainement, une traduction française. Wiedemann est mort en janvier 2001, et certains d'entre vous se souviennent peut-être également que Bourdieu, dans le texte publié de son dernier cours, intitulé « Sciences de la science et réflexivité », donc dans le texte de son dernier cours, Bourdieu commence par évoquer la mémoire de Wiedemann. Wiedemann, qui avait été son collègue dans cette maison, puisqu'il y a été professeur de 1962 à 1990, et Bourdieu considérait lui aussi Wiedemann comme un maître d'une espèce exemplaire, beaucoup trop peu reconnu, et qui pourrait bien être en train de disparaître peu à peu. Aux yeux de Bourdieu, Wiedemann faisait partie des rares philosophes de notre temps qui ont réussi, même pour quelqu'un qui considère la discipline avec le regard critique et souvent peu aimable du sociologue, à sauver réellement et complètement l'honneur de la philosophie. Je pourrais difficilement faire mieux, je crois, en matière d'hommage, que de vous citer les termes que Bourdieu lui-même utilisait. Je cite, je ne l'ai pas mis sur le diapositive, je vais simplement vous le lire, « Je voudrais dédier ce cours à la mémoire de Jules Wiedemann. Peu connu du grand public, il incarnait une grande idée de la philosophie, une idée de la philosophie peut-être un peu trop grande pour notre temps, trop grande en tout cas pour accéder au public qu'il aurait mérité. » Si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a été pour moi un très grand modèle qui m'a permis de continuer à croire dans une philosophie rigoureuse à un moment où j'avais toutes les raisons de douter, à commencer par celle que me fournissait l'enseignement de la philosophie tel qu'il était pratiqué. Il se situait dans cette tradition française de philosophie de la science qui a été incarnée par Bachelard, Coiré et Canguilhem, et qui est prolongée aujourd'hui par quelques autres dans ce lieu même. C'est dans cette tradition de référence, c'est dans cette tradition de réflexion, d'ambition scientifique sur la science que se situe ce que je vais essayer de faire cette année. Alors je pourrais dire un peu la même chose. Je croyais l'avoir mis sous. Apparemment, je ne l'ai pas fait, à moins que. C'est pas grave. Quand on compare le niveau des exigences que s'est imposé depuis le début et a maintenu jusqu'au bout sans jamais rien céder, un philosophe comme Villemin, avec celui des ouvrages qui sont censés illustrer le fameux renouveau de la philosophie dont il est question depuis quelque temps dans les journaux, il faut reconnaître que Bourdieu n'avait sans doute pas tort de se demander si l'idée de la philosophie que Villemin a défendue et illustrée n'était pas un peu trop élevée pour les possibilités de notre époque, et si elle ne risquait pas, en plus de cela, de le devenir malheureusement encore plus avec le temps. Il y a en tout cas des raisons sérieuses de considérer que le vrai renouveau, s'il est concevable, pourrait bien être plutôt celui qui consisterait à se décider enfin à lire et à prendre réellement au sérieux des philosophes comme lui. Bourdieu, vous l'avez remarqué, parle de Villemin comme d'un philosophe de la science, ce qu'il a été incontestablement, avec une compétence et une maîtrise impressionnantes et même presque écrasantes. Mais ce n'est pas vraiment, vous vous en doutez, de Villemin, philosophe de la science, que j'ai l'intention de vous parler cette année, même si les raisons d'en parler ne manquent sûrement pas. C'est plutôt de ce qu'on pourrait appeler Villemin, philosophe de la philosophie. La philosophie de la philosophie a pris chez lui, comme je l'ai indiqué au début, la forme spécifique d'une tentative de construction d'une classification rationnelle et d'une théorie systématique des systèmes philosophiques, une entreprise qui, de toute évidence, constituait à ses yeux un des aspects les plus importants, pour ne pas dire le plus important, de son œuvre. La première constatation que l'on peut faire quand on aborde la question dont j'ai choisi de vous parler cette année est que l'attitude adoptée la plupart du temps à l'égard de la notion de système philosophique est typiquement ambivalente. D'un côté, il peut sembler à peu près entendu que le mode d'expression normal et même plus ou moins obligatoire de la philosophie est le système, et que tous les grands philosophes ont été, d'une manière ou d'une autre, des constructeurs de systèmes. Selon une conception qui est encore assez répandue, quand les philosophes deviennent incapables de se lancer dans la production de véritables systèmes, cela ne constitue pas nécessairement la marque de la sagesse, de la modestie et de la prudence, mais plutôt le signe du déclin et de l'impuissance. D'un autre côté, on a tendance à penser également qu'un vrai philosophe devrait peut-être s'interdire, au contraire, d'essayer de construire un système, et que les philosophes les plus authentiques pourraient bien être justement ceux qui ne l'ont pas fait, et qui se sont même, le cas échéant, abstenus tout simplement d'écrire quoi que ce soit. Un des plus grands philosophes dans ce sens-là serait évidemment Socrate. Considérez par exemple ce que dit Jacques Tournebroche dans le livre d'Anatole France, Les opinions de M. Jérôme Coignard. Il s'agit de l'abbé Jérôme Coignard, dont il est dit que, je cite, « Cet esprit excellent, vous avez la chose sur l'écran, cet esprit excellent eut des vues originales sur la nature et sur la société. » Et pour étonner et ravir les hommes par une vaste et belle construction mentale, il lui manqua seulement l'adresse ou la volonté de jeter à profusion les sophismes comme un ciment dans l'intervalle des vérités. C'est de cette manière seulement qu'on édifie les grands systèmes de philosophie qui ne tiennent que par le mortier de la sophistique. Donc, c'est une formule tout à fait remarquable qui renvoie effectivement du reste à quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a que les grands systèmes ne réussissent à tenir ensemble que grâce à ce que Anatole France appelle le ciment de la sophistique. Alors l'idée donc qui est exprimée ici et qui, encore une fois, est assez ordinaire, est assez banale, c'est que les faiseurs de systèmes sont toujours, au moins jusqu'à un certain point, des faiseurs tout court, puisque les édifices impressionnants qu'ils construisent ont un besoin essentiel pour tenir debout, au moins pendant quelque temps, de ce qui est appelé ici le mortier de la sophistique. Et inversement, on peut avoir tendance à penser que celui qui, parce qu'il est plus honnête, se refuse à utiliser ce matériau douteux, lui ne construira jamais de système. Il ne construira jamais de système parce qu'il ne consent pas à utiliser ce matériau douteux qui est appelé ici donc le mortier de la sophistique. Alors on pourrait également, je crois, formuler le problème de la façon suivante, que ce soit dans la philosophie ou en général, il y a sans doute des vérités, et des vérités nous sommes en mesure d'acquérir une connaissance relativement certaine, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'elles sont susceptibles de s'arranger en un système ? Ce n'est pas tout à fait la même chose de dire que la philosophie peut bel et bien avoir les moyens de parvenir à des vérités d'une certaine sorte et de considérer ou de postuler que ces vérités en question, dans le cas de la philosophie, doivent pouvoir s'agencer en un système. Et est-ce qu'on peut contraindre les vérités auxquelles la philosophie est peut-être en mesure d'arriver, est-ce qu'on peut les contraindre à s'arranger, à entrer dans un système, sans du même coup être obligé de faire entrer dans le dit système, dans la construction, une bonne quantité de fausseté, ou en tout cas d'arbitraire. Pour illustrer ce genre d'idée, on pourrait citer aussi ce propos du pamphlétaire Paul-Louis Courier concernant l'histoire que rapporte Sainte-Beuve, en l'appliquant cette fois à la philosophie. Sainte-Beuve l'applique à l'histoire. Paul-Louis Courier l'appliquait à l'histoire. On peut évidemment aussi l'appliquer à la philosophie. Paul-Louis Courier dit ceci: pourvu que ce soit exprimé à merveille et qu'il y ait bien des vérités, de saines et précieuses observations de détails, il m'est égal à bord de quel système et à la suite de quelle méthode tout cela est embarqué. Donc, pourvu qu'il y ait des vérités, le système qui en constitue le véhicule, le bateau sur lequel toutes ces vérités sont embarquées est une chose passablement indifférente. Autrement dit, un système philosophique considéré en lui-même, considéré en tant que tel, n'est pas vrai, mais il peut contenir des vérités et chaque système philosophique en contient probablement un certain nombre. Il va sans dire que si on décide de ne retenir dans un système que les vérités qu'il contient, il est possible de réconcilier entre eux assez facilement tous les systèmes, puisque dans un ensemble de propositions qui sont toutes vraies, aucune proposition ne peut être la négation d'une autre, pour la raison que la négation d'une proposition vraie ne pourrait être qu'une proposition fausse. Mais, du même coup, une fois que le système a été utilisé pour parvenir aux vérités qu'il contient, ou qu'en tout cas il est censé contenir, il semble devenir inutile. Et il peut même, semble-t-il, aussi bien être oublié complètement. Encore une fois, peu importe le bateau à l'intérieur duquel toutes ces vérités sont embarquées, du moment qu'on a pu entrer en possession, grâce à ce véhicule, le système, on a pu entrer en possession des vérités en question. Évidemment, la situation est complètement différente si on se représente les systèmes philosophiques comme reposant sur le choix initial, plus ou moins axiomatique, de principes premiers qui diffèrent d'un système à un autre et qui sont incompatibles entre eux. La construction du système consistant à tirer d'eux, de ces principes initiaux, par la méthode déductive des conséquences dont certaines sont susceptibles de contredire ouvertement le sens commun. C'est, comme nous le verrons, le genre de conception qui est défendu par les philosophes comme Jules Wiemann. Et il implique qu'il faut renoncer une fois pour toutes à l'espoir de réussir à réconcilier les systèmes philosophiques entre eux et avec le sens commun. Aucune de ces deux choses ne peut être espérée. On ne peut espérer ni parvenir un jour à mettre les systèmes philosophiques d'accord entre eux, ni parvenir à les mettre d'accord avec le sens commun. En philosophie, on ne peut pas exploiter simultanément toutes les possibilités que la classification des systèmes est en mesure de répertorier et d'énumérer. La première obligation que l'on a est de choisir autant que possible avec de bonnes raisons. Mais les raisons ne sont jamais de l'espèce démonstrative. Et on peut encore moins compter sur le sens commun pour valider le choix. Donc ça, c'est la question dont j'ai prévu de vous parler plus longuement. Comment, en fin de compte, comment en dernier ressort se fait le choix entre les systèmes philosophiques. Le sens commun, ai-je dit, ne peut pas servir de tribunal permettant de juger et de départager les systèmes. Pour la raison que Wiemann indique de la manière suivante, si un système philosophique devait sélectionner certains principes et en rejeter d'autres, le choix serait dépourvu de toute espèce de justification et la sensation de surprise ne serait pas dissipée si on ne montrait pas que l'acceptation antérieure, non critique, de prémices qui sont à présent questionnées exprimait une pure illusion. Autrement dit, un système philosophique quel qu'il soit est condamné par essence à qualifier d'illusion, à qualifier d'illusoire les choix qui sont faits par les autres systèmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation entre les systèmes. Ce qu'un système considère comme vérité et réalité sera nécessairement considéré comme simple apparence et illusion par un système rival qui est incompatible avec lui. Alors, Vivien prend l'exemple de l'argument de Diodore dont je vous ai dit un mot, dont je vous disais un mot il y a un instant. Ainsi, dit-il, Diodore est obligé de refuser toute espèce de rôle au prédicat de disposition. Il ne fait place à la possibilité qu'en tant que ce qui est ou sera. Aristote, de son côté, sauve la liberté, conçue comme le pouvoir de choisir entre plusieurs options, mais uniquement en payant le prix de l'acceptation de futurs contingents complètement indéterminés et de propositions sans valeur de vérité. Donc, il est obligé d'accepter l'idée que les propositions qui décrivent des événements futurs contingents n'ont pas de valeur de vérité, ce qui est évidemment le genre de choses que tout le monde n'est pas disposé à accepter. Mais, continue Villemin, du point de vue d'Aristote, l'actualité sans défaut de l'univers mégarique qui dénie tout sens à la délibération humaine réduit cet univers à une pure apparence. Encore une fois, ce qui est réalité pour un système philosophique se réduira à une apparence pour, du point de vue d'un autre système philosophique. Les mégariques, pour leur part, considéreraient les choses peu probables qui sont admises par Aristote comme autant d'indications du préjugé subjectif qui est inscrit dans une définition de la liberté comme étant un empire à l'intérieur de la nature. Par conséquent, comme vous venez de le voir, tout système philosophique digne de ce nom est contraint par nature de rabaisser au statut d'apparence ou d'illusion pure et simple des choses que le sens commun ou des systèmes philosophiques rivaux considèrent comme des réalités indiscutables. Et dans le livre auquel j'ai déjà fait allusion et dont j'aurai à vous parler longuement, donc le livre de Vivien qui est paru en 1984, qui s'intitule « Nécessité ou contingence, l'argument de Diodore et les systèmes philosophiques », dans ce livre, Vivien a utilisé une aporie célèbre qui est due à Diodore Cronos et rapportée par Épictète, une aporie qu'on appelle l'argument dominateur, le « curion logos », donc l'argument dominateur, le dominateur tout court, ou le maître argument. C'est d'elle qu'il est question, c'est de cette aporie qu'il est question dans le passage que je viens de vous citer. Villemin l'a utilisé, comme je vous le disais, il l'a utilisé comme un principe qui organise la philosophie grecque et même plus généralement la philosophie morale. On peut, estime-t-il, dire que l'aporie de Diodore a dominé et domine encore la philosophie de l'action de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et continuent à dominer la philosophie des mathématiques et la philosophie de la nature. Alors, en quoi consiste cette aporie de Diodore ? L'aporie de Diodore consiste à démontrer l'incompatibilité de quatre prémisses principales qui sont généralement acceptées. Elle constitue par conséquent un principe de division qui oblige les philosophies à faire des choix qui sont incompatibles entre eux, en l'occurrence à décider de sacrifier l'une ou l'autre des prémisses de l'argument, puisqu'il n'est pas possible, sans contradiction, de les conserver toutes. Et on s'aperçoit immédiatement, Villemin insiste beaucoup sur cet aspect, que chacun de ces choix comporte un certain prix. Il n'y a pas de choix qui puisse être considéré comme anodin. Sur ce point, il faut, si on choisit la philosophie, il y a des sacrifices à consentir, par rapport au sens commun, s'entend. Les quatre prémisses de l'argument, telles qu'il est reconstitué par Villemin, à partir du texte d'Épictète et d'un certain nombre d'autres sources, sont les suivantes. Alors, grand A, le passé est irrévocable. Alors, en grec, bon, j'aurai à revenir plus tard sur les problèmes d'interprétation et de traduction qui peuvent se poser à propos de ces quatre prémisses. Donc, la première prémisse s'énonce en grec, pan parelalutos aletes anankaionesti, c'est-à-dire tout vrai passé est nécessaire. Autrement dit, si vous voulez, tout ce qui est arrivé, donc, et qui a été vrai dans le passé, l'est nécessairement, c'est-à-dire continue à l'être une fois qu'il est passé. En langage plus ordinaire, c'est le fameux principe facta infecta fieri non possunt, donc les choses qui ont été faites ne peuvent pas être rendues non faites, ou comme Villemin le traduit, donc le passé est irrévocable, hein, c'est-à-dire on ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été, et pas davantage que ce qui n'a pas été ait été. Donc oui, c'est un principe qui a évidemment, pour lui, une évidence assez forte. Et c'est un peu le cas du reste des trois autres prémices de l'argument. Ils ont chacun, chacune de ces prémices a un air d'évidence qui fait qu'il est extrêmement difficile, en première vue, de renoncer à l'une quelconque d'entre elles. C'est pour ça qu'il y a précisément une aporie, la fameuse aporie de Diodore. Alors, la deuxième prémisse, donc, c'est du possible à l'impossible, la conséquence n'est pas bonne. En grec, dynato adynaton ouk akoloutei, de l'impossible, donc le possible ne suit pas. Du point de vue de l'interprétation, le adankaion qui figure dans la première prémisse doit être interprété dans un sens temporel. Ce qui est arrivé est nécessaire, mais une fois qu'il est arrivé, la nécessité est affectée en l'occurrence d'un caractère essentiellement temporel, tandis que dans la deuxième prémisse, le sui de représente la conséquence logique, c'est-à-dire du possible, on ne peut pas déduire au sens logique et intemporel l'impossible. La troisième prémisse, donc, c'est il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais. Ça, c'est une prémisse qui a pour elle aussi une évidence assez forte. Leibniz a toujours considéré comme absolument inacceptable d'adopter une conception diodorienne du possible, puisque pour Diodore, le possible, c'est ce qui a été, qui est en train d'être ou qui sera. C'est-à-dire, il n'y a pas de possible qui ne se réalise pas. Et Leibniz trouve absolument choquant qu'on puisse mettre en question la prémisse C, puisque lui, il tient au contraire par-dessus tout. J'aurai l'occasion de vous en reparler longuement, il tient par-dessus tout à cette idée qu'il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais. Et enfin, pour qu'il y ait une véritable incompatibilité, il faut ajouter une quatrième prémisse qu'on appelle généralement le principe de nécessité conditionnelle, et qui s'énonce. Cette prémisse s'énonce, ce qui est ne peut pas ne pas être pendant qu'il est. En grec, tomein un einai to on ota e, kai tomeon me einai otan me e, ananke, c'est-à-dire le fait pour ce qui est d'être quand il est, et aussi longtemps qu'il est, et pour ce qui n'est pas de ne pas être quand il n'est pas, et aussi longtemps qu'il n'est pas, est nécessaire, est une nécessité. C'est ce qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle, qui soulève des quantités de problèmes dont j'aurai aussi à vous reparler, mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on est confronté à une situation qui est typiquement philosophique, selon Villemin, c'est-à-dire il faut faire des choix. Il faut faire des choix, tous les choix sont coûteux, même douloureux, c'est l'origine des divisions irréductibles qui se produisent dès le départ, entre les réponses philosophiques, les options philosophiques. Épictète mentionne lui-même trois sortes de solutions qui ont été proposées par les anciens. Diodore lui-même nie la validité de Sage, comme je viens de vous l'indiquer. Donc, ce que fait Diodore consiste à soutenir que tout ce qui est possible se réalisera à un moment quelconque. J'ai déjà évoqué l'ironie de Leibniz. Que Leibniz manifeste à l'égard de cette solution-là, en faisant remarquer que dans ce cas-là, les choses les plus absurdes, les plus fantastiques que racontent les romanciers sont des choses, l'astrée par exemple, on est sûr que c'est des choses qui, si elles ne sont pas déjà arrivées ou si elles ne sont pas en train d'arriver, arriveront un jour. Donc il considère comme complètement insensé, déraisonnable et insensé de remettre en question la prémisse C. C'est pourtant ce que fait Diodore. Chrysippe, lui, conteste la vérité de la prémisse B, et il admet par conséquent que l'impossible peut suivre du possible, ce qui est évidemment également assez dur à accepter. Cléante met en doute la prémisse A, celle qui affirme la nécessité du passé, nécessité entre guillemets du passé, en s'appuyant sur le retour éternel. Là, comme je le faisais remarquer, il est également assez difficile de se résigner à l'idée qu'on pourrait se trouver contraint d'abandonner une prémisse aussi, à première vue, aussi évidente que celle qui affirme l'irrévocabilité du passé. Et donc, comme on peut le constater, il n'y a pas moyen de résoudre la contradiction sans renoncer à chaque fois à un principe qui semblait jusqu'à présent s'imposer, et même s'imposer avec une certaine évidence. Cela révèle une situation qu'on pourrait décrire de façon un peu vulgaire en disant qu'on ne peut pas tout avoir en même temps en philosophie. Et c'est pour ça que j'ai prévu de vous consacrer une séance donc à la cette question de la misère de l'éclectisme, parce qu'à une certaine époque, il y a eu toute une école de philosophie qui s'est imaginée, pensée à Victor Cousin et aux gens de son école, qu'il devait être possible, d'une manière ou d'une autre, de tout avoir en même temps en philosophie, c'est-à-dire de réconcilier entre eux tous les systèmes. Naturellement, il résulte déjà de ce que je viens d'essayer de vous expliquer, que cette solution a toutes les chances de se révéler en fait complètement illusoire. On est obligé, semble-t-il, de choisir, et il n'existe pas de possibilité de choix qui ne se révèle pas à un moment ou à un autre en conflit avec le sens commun ou avec des présuppositions qui ont pour elles le fait d'avoir été acceptées la plupart du temps comme allant à peu près de soi. Winman observe à un moment donné que, je cite, « la classification, il s'agit de la classification des systèmes philosophiques, n'entraîne pas de philosophie de l'histoire de la philosophie particulière, donc on ne peut pas espérer en tirer une philosophie particulière de l'histoire de la philosophie, mais cette classification, dit-il, exclut un mythe populaire qui identifie le vrai avec la totalité, un concept probablement inconsistant. » Donc, il ne faut pas espérer arriver à aboutir à la vérité en essayant de réaliser une sorte de synthèse de tous les systèmes philosophiques, quelle que soit la forme qu'on peut espérer réussir à lui donner. Ça, c'est page 130 de « Que sont les systèmes philosophiques ?». Mais il faut souligner que le vrai peut encore moins être identifié à une partie commune entre les systèmes qui seraient susceptibles de bénéficier de l'approbation du sens commun. Parce qu'après tout, c'est une espérance un peu naïve qu'on pourrait aussi entretenir, c'est-à-dire que chaque système philosophique comporte peut-être une part de vérité, qui est une part de vérité, au fond, que le sens commun est disposé à accepter. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour finir, quelque chose comme une intersection, une sorte d'intersection entre tous les systèmes qui correspondrait à quelque chose comme la philosophie du sens commun? J'aurai l'occasion de vous reparler assez longuement de ce type de solution. Ce type de réponse dont on peut montrer aussi assez facilement qu'il est illusoire. Donc, conclusion, à première vue, le vrai ne peut résider ni dans une réunion, ni dans une intersection entre les différents systèmes, de quelque façon qu'elle soit conçue. Winman, bien entendu, n'est pas le premier à s'être lancé dans une entreprise de classification systématique des systèmes philosophiques. Pour s'en tenir à la tradition philosophique française, des tentatives avaient déjà été effectuées dans ce sens, par exemple par des philosophes comme Victor Cousin et Charles Renouvier, dont je vous ai déjà parlé. Renouvier, du reste, ridiculise impitoyablement l'embryon ou le semblant de classification proposé par Cousin, qu'il considère comme complètement arbitraire. Et il essaie de construire pour sa part quelque chose d'un peu plus sérieux. Effectivement, il arrive à quelque chose d'un peu plus sérieux. Ce qui est nouveau et important chez Winman est, comme on le verra, le fait de proposer une classification qui repose sur un principe d'organisation authentique et qui permet de remonter aux raisons a priori de la séparation qui s'effectue et de la distinction qui s'instaure entre les philosophies. Pour illustrer cela, je vais vous citer deux passages caractéristiques de « Nécessité ou contingence ». Premier extrait, donc Winman dit « L'histoire de la philosophie s'en tient à l'analyse interne des systèmes philosophiques, un système étant formé par la production et l'organisation des idées conformément à des moyens de preuve donnés. Cependant, les systèmes dans lesquels on cherche à déterminer historiquement les idées de nécessité et de contingence ne forment pas une simple association de juxtaposition et de succession. Un fil conducteur les organise. » Et c'est l'argument dominateur qui fournit ce fil. Ce que je vous avais dit il y a un instant, donc c'est l'argument dominateur qui constitue le principe de séparation et d'organisation entre les systèmes de la nécessité et de la contingence. Il donne, dit Winman, une liste d'axiomes incompatibles, donc l'argument de Diodore, il donne une liste d'axiomes incompatibles et par là fixe un programme aux philosophies. Résoudre la contradiction en niant l'un de ces axiomes, la difficulté consistante à justifier la négation d'un axiome qui paraissait évident. Donc il faut arriver à justifier, à faire accepter le sacrifice qu'implique la renonciation à l'un quelconque des axiomes qui entre en jeu dans la formulation de l'aporie de Diodore. Alors, deuxième passage de Villemain que je voulais vous citer. Le dominateur en fait foi. Les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions, donc il s'agit des notions modales, et en particulier la nécessité et la contingence, donc les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions conduisent quand on les met en rapport et qu'on développe systématiquement leurs conséquences. Il y a donc un usage philosophique des assertions et des modalités fondamentales qui permet de classer les philosophies en remontant aux principes desquels découlent leur unité, leurs limitations et leur affrontement. Donc une classification a priori des systèmes philosophiques doit être possible. C'est la conviction profonde de Villemain. Un bon nombre de tentatives de classification des systèmes philosophiques sont a posteriori et restent plus ou moins rhapsodiques. C'est le cas de la tentative de classification de Victor Cousin et également, un degré moindre, mais néanmoins tout à fait réel, de la tentative de Renouvier. Donc ce sont des classifications a posteriori et qui présentent l'inconvénient de rester plus ou moins rhapsodiques. Alors la classification de Villemain est tout à fait différente. C'est une classification non pas ex datis, mais ex principiis, et elle est a priori. Autrement dit, elle détermine, pourrait-on dire, a priori, quelque chose comme l'espace logique ou l'espace de possibilité des réponses philosophiques, dans lequel tout système trouvera, le moment venu, sa place. Bien entendu, je m'empresse de le préciser, elle ne détermine pas, la classification ne détermine que des classes de systèmes possibles et non des systèmes particuliers. Chaque type de système est en effet susceptible d'un nombre illimité de variantes qui ne peuvent pas être anticipées par la classification et dont la forme particulière est déterminée par des facteurs historiques divers, en particulier par l'état de la science au moment considéré. Donc ce qui peut être prévu, c'est que ce sont les classes de systèmes qui sont en quelque sorte déterminées, données a priori, mais évidemment pas la constitution particulière et les caractéristiques particulières de tel ou tel système. Donc, je vous rassure tout de suite, il est tout à fait ce que dit Villemain est tout à fait compatible avec l'idée qu'il peut y avoir, il y a constamment de l'imprévu et de la nouveauté en philosophie. Alors, la classification des systèmes chez Villemain repose sur une classification, je l'ai déjà indiqué, donc elle repose sur une classification préalable des types d'assertions fondamentales. Alors, vous avez ici une présentation de la table des assertions fondamentales et des domaines d'individus auxquels elles s'appliquent. Bon, je ne vais pas faire de commentaires, en tout cas de commentaires détaillés là-dessus pour le moment, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, et ça demande une grande attention, parce que c'est extrêmement compliqué et technique. Donc ici, vous avez la table des assertions fondamentales. Voici maintenant la forme que prend la table des systèmes philosophiques telle qu'elle est présentée dans le livre What are Philosophical Systems. Il me suffira pour l'instant d'indiquer donc d'abord que les systèmes philosophiques donc, sont classés en référence aux différents types possibles de propositions élémentaires. Donc chaque système s'appuie sur le choix d'une ou plusieurs propositions, d'une ou plusieurs formes de prédication comme forme fondamentale. Et ce qui nous intéresse surtout pour l'instant, c'est le fait que Villemain répartit donc les systèmes philosophiques d'abord en deux grandes classes. Il y a ce qu'il appelle les systèmes dogmatiques et puis les systèmes de l'examen. Alors les systèmes dogmatiques se répartissent pour ce qui les concerne en quatre sous-classes hein, qu'il appelle le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. Et puis vous avez ça dans la version française donc, qui se trouve dans nécessité ou contingence, vous apercevez clairement donc la distinction bipartite entre deux grandes classes de systèmes, les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen, et puis les quatre sous-classes, hein, les systèmes dogmatiques, donc dans le cas des systèmes dogmatiques, les options possibles donc, sont le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses, le nominalisme des événements. Dans le cas des systèmes de l'examen, il y a deux grandes options qui sont appelées l'intuitionnisme et le scepticisme. Bon, j'aurai à vous parler beaucoup plus longuement de l'usage assez particulier et extrêmement général que Villemain fait en l'occurrence du terme intuitionnisme, puisque par exemple pour lui, Kant et Épicure sont des intuitionnistes. Brouwer, bien sûr, est lui aussi un intuitionniste, mais encore une fois, l'usage du terme intuitionnisme présente des analogies avec l'usage qui en est fait en mathématiques. Et d'ailleurs, je pense qu'il tire son origine de là, mais c'est un usage qui est beaucoup plus général. Bon, j'en reste là pour l'instant, puisque nous aurons l'occasion de reparler longuement de la façon dont Villemin arrive à sa classification des systèmes philosophiques. Revenons-en à présent un instant au genre de reproche qui a été adressé traditionnellement et l'est sans doute aujourd'hui encore plus que jamais aux constructeurs de systèmes. À l'accusation de malhonnêteté intellectuelle, inévitable, vient s'ajouter assez fréquemment chez les contempteurs et les ennemis du système celle de violence inacceptable infligée à la réalité et susceptible de l'être aussi directement ou indirectement aux êtres humains. L'esprit de système, comme on l'appelle, et le dogmatisme théorique sont considérés comme intrinsèquement suspects et dangereux parce qu'ils risquent généralement, en pratique, de conduire tôt ou tard à la répression et à la persécution exercée au nom de la vérité, ou peut-être plus exactement au nom de la prétention d'être le seul à détenir la vérité absolue et entière. Donc ils sont considérés comme susceptibles au nom de cette idée que non seulement détient la vérité, mais qu'on est le seul à la détenir, ils apparaissent comme susceptibles de conduire à la répression et à la persécution exercée contre les sceptiques et les réfractaires. Le mode de pensée systématique est donc perçu souvent comme arrogant, autoritaire et potentiellement tyrannique. La prétention à la totalisation de l'expérience et de la connaissance qui caractérise donc le système, suscite la méfiance parce qu'on la croit, à tort ou à raison, exposée au risque de devenir purement et simplement totalitaire. Donc le besoin de totalisation a été assez fréquemment suspecté d'être au moins potentiellement totalitaire. Un aspect essentiel, comme on le verra, du travail de Villemin consiste à essayer de laver complètement l'idée de système du soupçon qui résulte de la façon dont elle est la plupart du temps associée implicitement à celle de dogmatisme et d'intolérance. Il est tout à fait possible, d'après lui, d'adhérer à un système philosophique et de le faire d'une façon qui n'a rien de mitigé, tout en reconnaissant en même temps que d'autres systèmes sont possibles et respectables. C'est un des gros problèmes que pose du reste sa conception, parce qu'il estime que l'importance du pluralisme a été de façon générale très sous-estimée, en particulier dans la philosophie contemporaine. C'est-à-dire, il défend l'idée qu'on peut tout à fait faire un choix réel, qui n'a rien de mitigé, c'est-à-dire choisir un certain système philosophique, et en même temps rester à chaque instant conscient du fait qu'il y a d'autres choix, que ce n'est pas le seul choix possible, mais qu'il y a d'autres choix qui peuvent également être compris et respectés. Alors en ce qui concerne l'accusation la raison que je viens d'évoquer, qui pousse beaucoup de gens à se méfier particulièrement du système, vous voyez par exemple le passage fameux de Musil dans L'homme sans qualité, quand il dit que son héros Ulrich, après avoir fait 3 essais pour essayer de devenir un grand homme, il dit qu'il aurait encore pu essayer de devenir philosophe, mais il s'en est bien gardé. Hein. Pourquoi ? Ben, vous avez l'explication. Musil dit qu'il n'était pas philosophe. Les philosophes sont des violents qui, faute d'armées à leur disposition, se soumettent le monde en l'enfermant dans un système. Donc, l'idée très souvent exprimée que le système recèle en lui-même une violence réelle ou potentielle, au moins potentielle. Probablement, dit Musil, est aussi la raison pour laquelle les époques de tyrannie ont vu naître de grandes figures philosophiques, alors que les époques de démocratie et de civilisation avancée ne réussissent pas à produire une seule philosophie convaincante, du moins dans la mesure où l'on peut en juger par les regrets que l'on entend communément exprimer sur ce point. C'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance. Et il ne savait pas à quel point il avait raison, je veux dire. Donc c'est pourquoi la philosophie au détail est pratiquée aujourd'hui en si terrifiante abondance qu'il n'est plus guère que les grands magasins où l'on puisse recevoir quelque chose sans conception du monde par-dessus le marché. Et là, je pense qu'il sous-estime nettement la situation, parce que ça n'est même plus vrai. Même dans les grands magasins, il est devenu très difficile de recevoir une marchandise quelconque sans conception du monde par-dessus le marché. Alors que, dit-il, il règne à l'égard de la philosophie, en gros, une méfiance marquée. On la tient même carrément pour impossible. Fin de citation. Alors ce que Musil suggère est que, tout au moins d'après l'idée que l'on se fait généralement de la situation, dans une époque de démocratie avancée, il y a toutes les chances pour que la philosophie devienne en quelque sorte omniprésente, mais plutôt sous la forme d'un produit de consommation courante, alors que par ailleurs, la production d'une œuvre philosophique réellement grande semble devenir à peu près impossible, ou en tout cas très improbable. Ce n'est bien entendu qu'une impression, mais vous pouvez constater vous-même que c'est une impression qui est effectivement assez répandue. On peut trouver aisément parmi les philosophes eux-mêmes des auteurs qui ont exprimé sans embâge leur méfiance radicale à l'égard de l'idée de système philosophique et même de système de pensée en général. On a en tout cas pensé assez souvent qu'il pouvait y avoir des façons de philosopher bien différentes de celles qui consistent à construire des systèmes. Et que cette manière de le faire, donc la façon de philosopher qui consiste à construire des systèmes, on a souvent estimé que si elle a eu pendant longtemps sa légitimité et sa raison d'être, elle devrait être considérée désormais comme dépassée. Nietzsche, par exemple, considère que l'époque des grands systèmes est aujourd'hui manifestement révolue. Et il considère même que ça devrait presque aller de soi pour tout homme sensé. Nous savons, explique-t-il, à présent trop de choses, notamment grâce à la science, et nous sommes devenus trop méfiants pour pouvoir encore prendre réellement au sérieux les tentatives de cette sorte, les grands systèmes philosophiques, ce qui, bien entendu, ne signifie pas nécessairement qu'elles vont cesser. Nietzsche est même tout à fait conscient du fait qu'elles vont probablement continuer. Mais, en tout cas, il estime qu'il ne peut plus y avoir de système philosophique à l'ancienne parce qu'il ne peut plus y avoir de système de la connaissance dans son ensemble. Or, c'est bien ce que les systèmes philosophiques prétendaient justement être. Ils prétendaient, ils avaient pour ambition de nous présenter quelque chose comme un système de la connaissance dans son ensemble, et ça semble effectivement être une caractéristique intrinsèque de la philosophie telle qu'elle est généralement conçue, en tout cas telle qu'elle a été conçue pendant longtemps, que d'essayer de nous présenter ce genre de choses, c'est-à-dire quelque chose comme un système de la connaissance dans son ensemble. Alors, vous voyez par exemple à ce propos, parmi une multitude d'autres du même genre, les deux déclarations suivantes de Nietzsche qui datent de l'année 1884. C'est quelque chose de puéril, sinon même une sorte de tromperie, quand un penseur présente aujourd'hui un ensemble de la connaissance, un système. Nous sommes bien trop prévenus pour ne pas porter en nous les doutes les plus profonds à l'égard de la possibilité, le mot est souligné, à l'égard de la possibilité d'un pareil ensemble. C'est bien assez que nous nous mettions d'accord sur un ensemble de présupposés d'une méthode, sur des vérités provisoires, entre guillemets, qui fournissent le fil conducteur du travail que nous voulons faire, comme le pilote qui maintient sur l'océan une certaine direction. C'est un appel à la modestie que, évidemment, Mouzil a particulièrement apprécié. C'est une des choses sur lesquelles il a été influencé de façon tout à fait directe et importante par Nietzsche. Alors, considération de Nietzsche, donc toujours de l'année 1884, tous les systèmes philosophiques sont dépassés, comme vous l'avez souligné, les Grecs brillent d'un éclat plus grand que jamais, surtout les Grecs pré-socratiques, précisément parce qu'ils se sont abstenus de construire quelque chose comme des systèmes philosophiques, au sens où on comprend généralement cette expression. On peut constater immédiatement, en lisant ce genre de remarques, que les choses risquent en même temps de se compliquer très vite. Je veux dire, les choses se compliquaient très vite quand la question posée est « Est-ce que la philosophie, est-ce que les philosophes doivent ou non, peuvent ou non raisonnablement continuer à essayer de construire des systèmes ?» Parce que, évidemment, il ne suffit pas qu'un philosophe se soit abstenu d'édifier ce qu'on a l'habitude d'appeler un système philosophique et a même combattu ouvertement ce genre de projet, cela ne suffit pas pour qu'il devienne impossible de le considérer lui aussi comme un penseur systématique. Nietzsche est incontestablement un penseur systématique à un degré élevé. La question a été posée également à propos de Wittgenstein, du deuxième Wittgenstein en tout cas, qui est souvent présenté comme le philosophe antisystématique par excellence. Il peut y avoir des raisons de considérer que toute philosophie est par essence systématique, même quand elle n'est pas présentée dans la forme du système, elle est même dans la forme à première vue la plus opposée qui soit à celle du système. C'est une question sur laquelle nous aurons, vous vous en doutez, l'occasion de revenir à différentes reprises. Pour y répondre, il faudra de toute évidence essayer d'être plus précis que je ne l'ai été jusqu'à présent sur ce qu'on veut dire exactement quand on parle de système philosophique et sur le genre de systématicité qui peut être attribué à la philosophie, puisqu'il est tout à fait possible et même probable que les constructions de la philosophie possèdent une forme de systématicité spécifique qui n'appartient qu'à elle et qui se distingue notamment de celle des constructions de la science, qui sont, elles aussi, bien sûr, tout au moins dans un bon nombre de cas, des constructions de type systématique. Qu'est-ce qui distingue donc la systématicité philosophique de la systématicité en général, en particulier de la systématicité scientifique? Le Littré définit un système, au premier sens, comme étant, je cite, « proprement un composé de parties coordonnées entre elles ». Évidemment, ça ne nous aide pas encore beaucoup, un composé de parties coordonnées entre elles. Remarque Littré, on peut, en ce sens-là, parler aussi bien d'un système de choses, par exemple d'un système des planètes ou d'un système du monde, que d'un système de propositions, d'idées ou de connaissances. L'élément commun à toutes les utilisations du terme « système » est, semble-t-il, l'idée d'un tout cohérent et organisé, dont les parties sont disposées en un certain ordre, ce qui soulève immédiatement deux questions. Premièrement, un tout composé exactement de quelle espèce de parties? Et deuxièmement, deux parties organisées selon quel principe d'ordre? Il n'est sans doute pas inutile sur ce point d'anticiper un peu sur ce dont j'aurai à vous parler beaucoup plus longuement par la suite et de donner dès à présent une idée du genre de réponse que Villemin apporte aux deux questions. Qu'est-ce qu'un système philosophique? Et pourquoi la philosophie possède-t-elle par essence une forme systématique? La réponse, selon lui, peut être trouvée en grande partie dans l'histoire de ses origines, dans l'histoire des origines de la philosophie. Il considère que, je cite, « la philosophie libre et la méthode axiomatique sont apparues simultanément en Grèce ». Donc, ce qu'il dit dans « What are philosophical systems ?», je l'ai déjà signalé il y a un instant, donc, selon lui, l'apparition de ce qu'il appelle la philosophie libre et celle de la méthode axiomatique sont contemporaines. Ce sont deux choses qui sont apparues simultanément en Grèce, d'une façon qui, dit-il, constituait une rupture fondamentale avec l'univers auparavant dominant du mythe. Et il s'agit d'un événement qui n'a rien d'universel et de nécessaire et dont il ne faut sous-estimer en aucun cas le caractère local et éminemment contingent. Il insiste beaucoup sur cet aspect du problème. Là, je m'empresse de dire que je ne vais pas commencer à discuter la question de savoir si ce que Renan a appelé le miracle grec n'est pas une chose qui, du point de vue historique, devrait être relativisée d'une multitude de façons. Donc, je m'abstiendrai, notamment faute de compétences, de discuter cet aspect du problème, qui d'ailleurs n'a pas une importance considérable pour nous. Donc, pour le moment, je voudrais donc simplement vous donner l'idée de la façon dont Villemin est arrivé à sa classification systématique des systèmes philosophiques. Alors, en ce qui concerne, à propos de ce qu'on continue à appeler le miracle grec, donc il dit ceci, il y a eu d'autres pays dans lesquels les sciences particulières, grammaire, logique, arithmétique, algèbre, géométrie, astronomie, se sont développées et ont même été florissantes, dans lesquelles les conflits sociaux ont suscité une discussion systématique des principes gouvernant l'organisation de la cité et dans lesquels la classe sacerdotale, entre guillemets, pour revenir à Benjamin Constant, n'a pas imposé son contrôle sévère sur l'opinion des gens. Mais, en quelque sorte, c'est seulement en Grèce que les sciences ont été enseignées et pratiquées comme des parties de l'éducation libérale. Ce sont seulement les Grecs qui ont conçu une façon rationnelle de traiter non seulement les sujets scientifiques, mais également les sujets religieux, politiques, éthique et artistique. Alors, ce qui fait de la science grecque un événement unique dans l'histoire de l'humanité est, d'après Villemin, l'utilisation de la méthode axiomatique. Cette science grecque qu'elle a appliquée à l'arithmétique, la géométrie, la logique, l'astronomie, l'harmonie et la statique. Cela constituait, observait-il, une avancée décisive pour une humanité qui avait vécu jusqu'alors essentiellement dans le monde et dans le langage du mythe. Ça constitue une avancée déterminante pour des raisons que Villemin expose de la manière suivante. C'était, dit-il, une cure immédiate pour les trois défauts des signes mythiques en ce qui concerne les fondements, les procédures d'extension et la vérité, même au risque de sembler indifférent à l'expérience et au monde sensible. Évidemment, là, il y a une, si vous voulez, quelque chose qui se produit, qui correspond incontestablement à un sacrifice, c'est-à-dire il y a une espèce de rupture qui semble se produire avec l'expérience et le monde sensible, et c'est d'une certaine façon le prix à payer pour accéder d'un côté au point de vue axiomatique et de l'autre à la philosophie. Alors, premièrement, dit Wittmann, la méthode délimitait et identifiait strictement le domaine des éléments que le mythe laissait ouvert. Chaque science devait déterminer ses concepts, stoikeia, et ses principes, archaï, irréductibles et fondamentaux. Ça, donc, c'est pour ce qui concerne les fondements, hein, le choix des éléments premiers, lequel le choix était laissé largement ouvert par le mythe. Chaque science, note Wittmann, devait déterminer ses concepts et ses principes irréductibles et fondamentaux. Deuxièmement, et là, ça concerne les procédures d'extension, hein, sur le passage des éléments primitifs aux éléments dérivés. Deuxièmement, les règles de construction et de définition étaient introduites, donc des règles de construction, pardon, et de définition étaient introduites, d'après lesquelles de nouveaux concepts étaient produits à partir des concepts primitifs et étaient éliminables dans les termes des dix concepts. De la même façon, donc ça, ce que je viens de dire, ça concerne l'extension en ce qui concerne les concepts, donc l'obtention des concepts dérivés à partir des concepts primitifs, puis il y a également une procédure d'extension réglée qui concerne les propositions elles-mêmes, donc c'est la déduction de propositions dérivées à partir des propositions primitives. De la même façon, dit Wittmann, une liste de règles déductives était donnée, une liste qui nous permet à partir de l'ensemble des principes primitifs de tirer l'ensemble de ses conséquences logiques. Troisièmement, donc là c'est ce qui concerne le problème de la vérité, troisièmement, tout comme l'ensemble de ces principes a été reconnu par les Grecs comme vrai, et tout comme on a vu que les règles de déduction préservaient les valeurs de vérité, c'est-à-dire partant de propositions vraies, elles conduisent à chaque fois à nouveau à des propositions vraies, les conséquences logiques des principes ont été reconnues elles-mêmes comme vraies, elles ont été prises comme constituant les théorèmes de la science grecque. Fin de citation. Qu'en est-il à présent de la philosophie telle que, selon Wittmann, elle apparaît à la même époque? Pour répondre à cette interrogation, il faut se reporter au type de questions que la méthode axiomatique laissait en quelque sorte par définition ouverte et qu'il n'était pas possible de laisser encore longtemps sans réponse. Donc la philosophie est apparue, d'après Wittmann, parce qu'il est apparu rapidement comme indispensable de répondre à certaines questions que l'axiomatique par définition, auxquelles l'axiomatique par définition s'abstenait de donner une réponse. Voyez le passage suivant. La méthode axiomatique détermine de façon précise un domaine en énumérant un ensemble de prémices dont des théorèmes découlent avec certitude. Mais elle ignore la nature de ces concepts indéfinissables et la justification de ces principes indémontrables. Donc, une sorte de silence général qui est observé pour d'excellentes raisons par rapport, pour ce qui concerne donc à la fois les concepts indéfinissables et les propositions indémontrables. Pour les concepts, l'axiomatique formelle va jusqu'à faire de la nécessité une vertu. La question socratique est en conséquence inévitable. Comment des éléments irrationnels et inconnaissables se combinent-ils en raison et connaissance? En tant que système hypothético-déductif, l'axiomatique est par conséquent complètement étrangère à l'ontologie. Et là, nous arrivons au point crucial, c'est-à-dire on a ressenti très vite le besoin de répondre à certaines questions ontologiques, c'est-à-dire d'arriver à la constitution d'une ontologie, alors que justement un des avantages de la méthode axiomatique était d'effectuer ce genre de passage, le passage à l'ontologie. De nombreux praticiens des mathématiques admettent, comme le faisaient même les anciens, la réalité des objets sur lesquels ils parlent, que ce soit des polygones et des polyèdres, ou des cercles et des sphères, ou des structures plus abstraites telles que le système des grandeurs d'Eudox. Mais une telle interprétation ne nous est jamais imposée par les axiomes eux-mêmes qui ne nous disent pas ce que sont les éléments. Et donc les axiomes nous laissent dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans l'ignorance concernant la nature exacte des éléments primitifs. On n'est pas en supposé en savoir autre chose que ce qui en est dit dans les axiomes, et comme on dit souvent, les axiomes ne déterminent pas leur contenu, mais en tout cas pas complètement leur contenu, mais seulement les relations qui existent entre eux. D'où la question qui en est venue à se poser très rapidement. Que sont les nombres, les points et les lignes? À quel genre d'existence peuvent-ils prétendre? Ce sont, dit Wittmann, des questions philosophiques. Mais la recherche philosophique ne pouvait pas rester confinée aux objets des systèmes axiomatiques proprement dits. Autrement dit, ce qui semble s'être passé du point de vue historique, c'est que la philosophie a été obligé d'abord de répondre à la place des systèmes axiomatiques à la question de la nature des objets dont il était question dans les 10 systèmes axiomatiques, puis ensuite elle ne pouvait pas ne pas se sentir obligée de le faire de façon beaucoup plus générale. Autrement dit, c'est la nécessité donc de la constitution d'une ontologie qui a, à proprement parler, a donné naissance à la philosophie. Il a fallu essayer de se mettre d'accord sur ce qui est, ou plus précisément sur la façon dont la totalité de ce qui est peut être recomposée à partir d'un certain nombre d'éléments primitifs. Alors, l'adoption de la méthode axiomatique a pour résultat de faire apparaître les relations entre les choses comme plus importantes pour la connaissance que les choses elles-mêmes, dont la nature peut très bien, et même peut-être doit nécessairement rester indéterminée. C'est ce genre de conviction qui est exprimé non seulement en ce qui concerne les mathématiques, mais également en ce qui concerne la science en général, dans ce qu'on peut appeler le credo structuraliste de Poincaré. Il n'y a pas de connaissance scientifique, ni même simplement de connaissance objective possible du contenu, dit Poincaré, mais seulement des relations. La science, dit-il, dans « La science et l'hypothèse », serait impuissante si elle était constituée de pures conventions et ne nous disait rien sur la réalité. Donc il n'est pas question de supposer qu'elle est constituée de pures conventions, même s'il est parfaitement vrai qu'il y a des conventions qui jouent un rôle essentiel. Mais pour ce qui est de ce que la science réussit véritablement à nous faire connaître, Poincaré dit ceci, tout à fait clairement, hein, ce qu'elle, la science, peut atteindre, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, comme le pensent les dogmatistes naïfs, ce sont seulement les rapports entre les choses. En dehors de ces rapports, il n'y a pas de réalité connaissable. Donc vous voyez que je n'ai pas exagéré en disant que vous défendez tout à fait clairement l'idée qu'il n'y a pas de connaissance scientifique, ni même de connaissance objective en général, qui soit autre chose qu'une connaissance des relations. Donc le contenu reste, d'une certaine façon, inconnu et même inconnaissable. Alors dans le cas des mathématiques, c'est le deuxième extrait que vous avez, dans le cas des mathématiques, cela semble encore plus évident que dans tous les autres. Poincaré dit ceci, « Les mathématiciens n'étudient pas les objets, mais les relations entre les objets. Il leur est donc indifférent de remplacer les objets par d'autres, c'est précisément un des avantages de la méthode axiomatique, le fait qu'elle permet de traiter d'un seul coup d'une multitude, simultanément, d'une multitude d'objets appartenant à des domaines à première vue très différents. Donc, il leur est indifférent aux mathématiciens de remplacer les objets par d'autres, pourvu que les relations ne changent pas. La matière ne leur importe pas, la forme seule les intéresse. » Là, je passe là sur les relations entre Poincaré et ce qui, chez Poincaré, constitue un héritage kantien et même typiquement kantien, bon, problème d'histoire, auquel je n'ai pas le temps de m'intéresser directement dans ce contexte. Alors, Poincaré ajoute, si l'on ne s'en souvenait pas, donc si on ne se souvenait pas du fait que, au fond, ce qui intéresse les mathématiques, ce sont les relations et non pas les contenus, on ne comprendrait pas que M. Dedekind désigne par le nom de nombre incommensurable un simple symbole, c'est-à-dire quelque chose de très différent de l'idée que l'on croit se faire d'une quantité qui doit être mesurable et presque tangible. Fin de citation. Donc ça, c'est dans la science et l'hypothèse, la réédition qui a du reste été préfacée par Villemin, la réédition de 1968, l'original a été publié, si je me souviens bien, en 1902. Alors une des raisons du divorce qui ne tarde pas à s'instaurer entre la science et le sens commun réside évidemment dans le fait que le sens commun ne renonce pas et ne peut pas renoncer à s'intéresser au contenu, alors que la science ne s'intéresse pour sa part, si l'on en croit Poincaré, qu'aux relations et à la forme. Cette situation suggère une division du travail et une répartition des tâches assez naturelle et tentante entre les scientifiques et les philosophes. Aux scientifiques, la connaissance des relations, qui est la seule à pouvoir donner lieu à la formulation de vérités objectives. Aux philosophes, le soin de spéculer, si le cœur leur en dit, sur la nature des objets, en renonçant d'avance à l'espoir de voir la spéculation en question se transformer un jour en une science. Si on dit que la science ne s'occupe stricto sensu que de la forme, il est assez naturel de penser en même temps que le contenu peut être abandonné à la philosophie, mais effectivement avec un espoir assez mince pour la philosophie de réussir à traiter un jour scientifiquement, entre guillemets, du contenu, puisque pour Poincaré, il est clairement exclu que l'on puisse traiter scientifiquement du contenu lui-même. Alors, en ce qui concerne le genre de répartition du travail que je viens de suggérer, vous noterez que les scientifiques oscillent la plupart du temps sur cette question entre deux attitudes, dont l'une consiste à abandonner généreusement les questions ontologiques aux philosophes, en se disant que la nature des réponses qu'ils seront amenés à proposer n'a finalement que peu ou pas d'importance réelle. Et l'autre option est celle qui consiste à suggérer au contraire que les scientifiques sont capables de disposer déjà par eux-mêmes, sans que la philosophie ait à se mêler de ce genre de choses, de tout ce dont ils ont réellement besoin, en fait, de réponses. Il leur suffit pour cela de se référer à leur propre expérience, qui leur dit elle-même tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour répondre à une question ontologique, comme que sont les points, les droites et les lignes. Pour avoir, par exemple, une idée suffisamment claire du statut ontologique exact des objets mathématiques et du genre d'existence qui peut leur être attribué, il n'est pas nécessaire, aux yeux de beaucoup de mathématiciens, de se référer à autre chose que la pratique mathématique et l'expérience mathématique elle-même. Alors, voyez par exemple à ce propos ce qu'écrivait Richard Courant, qui était un des collaborateurs de Hilbert, dans un livre qui a été publié pour la première fois en 1941. C'est ceci, je cite, « À travers les siècles, les mathématiciens ont considéré les objets de leur étude, tels que les nombres, les points, etc., comme des objets en soi. Puisque ces entités ne se sont jamais laissées décrire de manière adéquate, une idée s'est lentement frayée un chemin dans les esprits des mathématiciens, à savoir, la question de la définition, de la signification, ne devait pas avoir sa place dans les mathématiques. Dans les mathématiques, on ne doit pas discuter ce que les points, les droites, les nombres sont effectivement ce qui importe, ce qui correspond à des faits véritables, ce sont les structures, les relations qui permettent de décrire ces entités. Heureusement, l'esprit créateur oublie les opinions philosophiques dogmatiques, car elles pourraient constituer des entraves aux découvertes constructives. Ainsi, pour les spécialistes, comme pour les profanes, ce n'est pas la philosophie, mais l'expérience active qui seule peut répondre à la question qu'est-ce que les mathématiques ? Alors là, vous remarquez qu'il passe un peu rapidement de la question qu'est-ce qu'un nombre à la question qu'est-ce que les mathématiques ? Ce qui n'est pas tout à fait la même question, mais en tout cas, il donne à entendre clairement qu'il y a un certain type de questions qui ne peut guère intéresser que les philosophes, c'est-à-dire en ce qui concerne la réponse qui doit leur être apportée, les mathématiciens savent déjà, sur la base de ce qu'il appelle l'expérience active, savent déjà tout ce qu'il est nécessaire de savoir. Donc, un mathématicien n'a pas de raison de s'attarder spécialement sur des questions comme « que sont au juste les mathématiques ?» ou « de quel genre d'objet s'occupe-t-elle » On peut penser, alors là, pour le coup, qu'il y a vraiment un lien essentiel entre ces deux questions. On ne peut pas espérer réussir à répondre à la question « que sont exactement les mathématiques ?» si on n'est pas en mesure de répondre à la question « de quel genre d'objet s'occupe-t-elle » Le mathématicien peut ignorer purement et simplement ces questions, ou bien considérer qu'en tant que praticien, il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir de sérieux, tout ce qu'il y a à savoir de sérieux et de concret sur la réponse. C'est un fait bien connu qu'une science, surtout si elle a été axiomatisée d'une façon qui est considérée comme standard, peut tout à fait vivre et prospérer sans être tenue pour cela d'avoir les idées claires sur le genre d'objet dont traitent ses propositions, ni même sur la signification de celles-ci. Voyez par exemple ce que dit Michael Domet sur ce genre de problème. Les mathématiciens, je cite, donc les mathématiciens comprennent certainement les énoncés mathématiques suffisamment pour opérer avec eux, pour faire des conjectures et essayer de les établir ou de les réfuter. Mais si on leur demande d'expliquer l'importance de leur entreprise prise comme un tout, de dire si les mathématiques constituent un secteur dans la recherche de la vérité, et si oui, sur quoi portent les vérités qu'elles établissent, habituellement, ils pataugent. Remarquez que ça ne veut pas dire que les philosophes ne pataugent pas tout autant. Mais ils ont au moins le mérite, en quelque sorte, professionnellement, d'être obligés de se poser ouvertement la question. Les physiciens, ajoute Domet, de la même façon, savent comment utiliser la mécanique quantique, et impressionnés par son succès, ils se sentent assurés qu'elle est vraie, mais leur discussion sans fin sur l'interprétation de la mécanique quantique montre qu'alors qu'ils croient qu'elle est vraie, ils ne savent pas ce qu'elle signifie. Et là, vous voyez que la situation a quelque chose d'un peu, à première vue, d'assez désespérant, parce qu'il semble y avoir pas tellement d'incertitudes, peut-être, en ce qui concerne la question de savoir si la mécanique quantique est vraie, Encore qu'il faudrait se poser la question de savoir ce qu'on veut dire exactement quand on dit qu'elle est vraie. Mais ce qui semble le plus sérieux, c'est qu'il semble y avoir, en dépit du fait qu'il y a apparemment cet accord implicite sur le fait qu'elle est vraie, il y a un désaccord, ce qui peut sembler beaucoup plus grave, sur la signification. C'est-à-dire quelle est la signification même des propositions de la mécanique quantique. Alors c'est très ennuyeux parce que, évidemment, la notion de signification semble être une notion plus fondamentale que la notion de vérité. Il semble que c'est seulement à propos d'une proposition sur la signification de laquelle on a les idées relativement claires qu'on peut se demander si elle est vraie ou non. Mais encore une fois, c'est une situation très courante et il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'exemple de la mécanique quantique pour s'en rendre compte. Une science peut tout à fait vivre et même prospérer sans réussir à donner des réponses particulièrement convaincantes à ce type de questions. Alors donc, ce qui apparaît, c'est que dès que nous voulons pousser la compréhension de ce en quoi consiste la signification et la référence des énoncés d'une science, comme les mathématiques, dès que nous voulons pousser cette compréhension au-delà de ce qui est nécessaire pour utiliser la science correctement dans les contextes familiers de la pratique, en l'occurrence la pratique mathématique. Donc dès qu'on veut essayer d'aller plus loin, la philosophie semble devenir nécessaire et inévitable. Bien entendu, il n'y a pas en pratique une différence très grande entre les deux options que j'ai distinguées, c'est-à-dire l'option qui abandonne la discussion des questions ontologiques à la philosophie, en considérant que la réponse est à peu près indifférente, et celle qui considère que la réponse existe bel et bien, mais qu'elle ne peut être trouvée que dans la pratique scientifique elle-même, sans que celle-ci ait réellement besoin d'être éclairée et analysée par la philosophie. Et là, nous touchons évidemment à un problème tout à fait crucial. Est-ce que la pratique scientifique d'une manière quelconque, besoin d'être éclairée et analysée par la philosophie? Ce à quoi on aboutit dans l'une ou l'autre des deux hypothèses que j'ai considérées, donc on adopte la première option ou la deuxième, ce à quoi on aboutit dans les deux cas est un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences. Donc ça résulte de ce que j'ai appelé l'espèce de division du travail ou de répartition des tâches qui semble résulter de cette idée qu'au fond, une science axiomatisée de façon convenable peut cesser de s'intéresser directement à la question de la nature des objets dont elle parle et abandonner ce type de questions à la philosophie. Alors, quelle que soit la conclusion qu'on tire de ça, donc ce qui en résulte, semble-t-il, un divorce à peu près complet entre la philosophie et les sciences, un divorce qui est refusé aujourd'hui comme hier par le petit nombre de ceux qui persistent à penser que, loin d'être, comme on l'affirme, une condition du progrès pour les sciences, donc ce divorce ne pourrait être au contraire que néfaste à la fois pour elles, pour les sciences, et pour la philosophie. Et c'est bien entendu à cette minorité-là qu'appartient Wieman. Alors, comme on le verra, il y a une question qui se pose. Il y a eu toute une période dans la deuxième moitié du XIXe siècle, également au début du XXe siècle, où il s'est conclu ce que Gabriel Acroco, dans ses articles sur Jules Wieman, appelle une sorte de concordat. Il y a une espèce de pacte concordataire qui semble avoir été signé, plus ou moins. C'était naturellement un pacte implicite entre les scientifiques et les philosophes, c'est-à-dire qui correspond au genre de division du travail et de répartition des tâches que j'ai évoquées, qui avait pour avantage de laisser la philosophie s'occuper librement de questions dont, au fond, les scientifiques n'ont pas besoin de se préoccuper spécialement, à savoir les questions ontologiques. Et puis, alors ça, c'est un avantage pour la philosophie, donc ça lui permettait de se livrer en toute liberté et en toute indépendance à ses activités préférées. Et puis, d'un autre côté, ça avait évidemment l'avantage de protéger, on verra que c'est un point qui est évoqué par Duhem dans la théorie physique, de protéger la philosophie, de protéger la science, pardon, contre les dangers du pluralisme. Parce que si on accepte d'importer dans la science elle-même quelque chose des conflits et des désaccords qui semblent être une caractéristique constitutive de la philosophie, autrement dit, si on se risque à essayer d'importer dans la science elle-même quelque chose comme de l'état de guerre qui semble faire de la philosophie une sorte de champ de bataille, est-ce que ça ne va pas risquer d'être fatal à la science elle-même, ou en tout cas de constituer un handicap sérieux au progrès? Donc, vous voyez, il y a eu une période durant laquelle, effectivement, il y a eu une espèce de pacte implicite de non-intervention et de non-agression dont était supposé bénéficier à la fois la philosophie d'un côté et les sciences de l'autre. Alors, bien sûr, Villemain, pour sa part, est un philosophe qui était radicalement opposé à cette idée. Donc, il a à la fois défendu l'idée que on ne peut pas espérer trancher entre les systèmes philosophiques en s'appuyant sur un état donné de la science, tout en maintenant par ailleurs qu'il y a néanmoins une relation essentielle entre la philosophie, entre un système philosophique et l'état de la science au moment considéré, ce qui d'ailleurs explique en grande partie les distances qu'il a prises par rapport à la plus grande partie de la philosophie contemporaine qui lui semblait avoir ignoré un peu trop vite cette nécessité pour la philosophie de conserver autant que possible un lien essentiel avec les sciences. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors la prochaine fois, donc, je m'attaquerai à la question « La philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être ?» Je vous remercie de votre attention.